Alors, donc, on a évoqué pendant la première partie de ce forum le credo en 12 articles que la tradition nous dit remonter aux apôtres eux-mêmes. Et dans cette seconde partie du forum, on va parler donc du credo de Nicée-Constantinople, qu'on appelle ainsi parce qu'il est le fruit des conciles qui ont eu lieu à Nicée et à Constantinople, donc en 325 puis 381. Et donc ces deux conciles ont une grande importance pour l'Église, et on en vit encore aujourd'hui. Donc le premier, le concile de Nicée en 325, avait été convoqué par l'empereur Constantin pour essayer de résoudre la crise arienne. Donc Arius était un prêtre d'Alexandrie, et on peut dire qu'il niait la divinité du Christ. Et donc le concile de Nicée va le condamner et va donner à l'Église un symbole de foi pour préciser justement la doctrine christologique qui était déjà contenue dans le symbole des apôtres. Et quelques années plus tard, donc en 381, le concile de Constantinople précisera, lui, surtout la doctrine sur le Saint-Esprit. Donc ce sera l'objet des deux interventions suivantes. Donc là, nous allons présenter le but et la fonction du credo de Nicée-Constantinople dans l'Église. Donc on va évoquer trois fonctions principales, ce sera les trois parties. D'abord une fonction doctrinale, puis une fonction liturgique et enfin une fonction œcuménique. Donc d'abord la fonction doctrinale de ce symbole. Donc en deux points, d'abord ce symbole a une valeur dogmatique. Donc le premier but de ce symbole de Nicée-Constantinople, ça a été de fixer dans une formule de foi le dogme christologique, donc frère Benoît y reviendra tout à l'heure, et il était nécessaire, en raison de l'hérésie arienne, de préciser davantage que ne le faisait le symbole des apôtres, la divinité du Christ. Et puis ensuite, ce sera aussi nécessaire pour le Saint-Esprit. Cette dimension dogmatique reste profondément d'actualité, essentiellement pour deux raisons. D'abord pour garder le dépôt de la foi, puisque bien sûr cet enseignement dogmatique sur le Christ est encore aujourd'hui fondamental pour l'Église, qui continue à professer la divinité du Christ. Et puis d'autre part parce qu'il n'est pas certain que l'hérésie arienne ait complètement disparu aujourd'hui de l'Église. Voilà ce qu'écrivait en 1985 le cardinal Ratzinger. Il déplorait en notant une christologie souvent suspecte, où l'on souligne de façon unilatérale la nature humaine de Jésus, en voilant, ou en taisant, ou en exprimant de manière insuffisante la nature divine qui vit en même temps dans la personne du Christ. On dirait, ajoutait-il, un retour en force de l'antique hérésie arienne. Et il ajoutait après, on aurait naturellement du mal à trouver un théologien catholique pour déclarer qu'il nie l'antique formule présentant Jésus comme étant fils de Dieu. Tous diront qu'il l'accepte, mais en précisant, entre guillemets, dans quel sens cette formule devrait être, selon eux, entendue. Fin de citation. Donc, comme exemple concret, on en a tous en tête, hein, le fait de refuser la naissance virginale de Jésus, ou bien de nier en bloc tous les miracles. Ces éléments peuvent être sous-tendus par une foi qui est un peu teintée d'arianisme aujourd'hui encore. Et donc aujourd'hui, actuellement, le symbole de Nicée-Constantinople fait partie de la profession de foi qui est exigée pour certains par le droit canon de l'Église. Donc en particulier, ils sont soumis à cette profession de foi les professeurs de théologie, et puis un certain nombre de fonctions enseignantes dans l'Église. On doit faire cette profession de foi qui est le symbole de Nicée-Constantinople, avec trois paragraphes ensuite précisant qu'on accepte aussi les points de doctrine développés ensuite par l'Église. Et donc aujourd'hui, ce credo de Nicée-Constantinople continue en quelque sorte à protéger la foi de l'Église en nous rappelant que oui, Jésus-Christ est Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé, et une seule nature avec le Père. Ce texte a aussi une valeur catéchétique qu'il garde aujourd'hui. Il fait partie, On le disait tout à l'heure, de la présentation organique et systématique de la foi chrétienne. Il est l'un des piliers avec les sacrements, le décalogue et le Notre Père. Voici comment le catéchisme de l'Église catholique présente la partie sur le credo. Il est dit « Notre exposé de la foi suivra le symbole des apôtres, qui constitue pour ainsi dire le plus ancien catéchisme romain. L'exposé sera cependant complété par des références constantes au symbole de Nicée-Constantinople, souvent plus explicites et plus détaillées. » Donc, une deuxième fonction du symbole de Nicée-Constantinople, c'est la fonction liturgique. En réalité, elle est très liée à sa fonction doctrinale. On dit souvent que la liturgie est un lieu théologique, c'est-à-dire un lieu où s'exprime, où se vit, où se développe aussi la foi de l'Église. Et même on peut dire que la liturgie est le lieu théologique par excellence, puisque la liturgie, c'est le lieu où sont rendus présents les mystères auxquels nous croyons. Et donc il y a un proverbe latin qui résume cela, hein, « lex orandi, lex credendi ». Le catéchisme traduit en disant « la loi de la prière est la loi de la foi ». Voilà, l'Église croit comme elle prie. Et donc, pour prendre un exemple concret, la manière dont on célèbre reflète un peu la foi que l'on a. Et encore plus, même, elle a une influence, c'est à double sens, elle a une influence, la façon dont on prie a une influence sur la foi, et notre foi a une influence sur la façon dont on prie. Quelqu'un qui passe sans cesse devant le Saint-Sacrement sans rien manifester, on se dit, oula, la foi en la présence réelle, bon. Et puis même s'il l'a un peu, à force, ça risque d'influer, la façon dont on se comporte peut influer sur la foi et réciproquement. Donc la foi et la liturgie sont toujours très liées. Donc le symbole de Nicée-Constantinople a d'abord été utilisé dans la liturgie du baptême. On évoquait tout à l'heure la transmission et la reddition du symbole. Donc on transmettait aux catéchumènes le credo qui, à la fin du carême, devait être rendu. Et donc le premier symbole à être utilisé pour le baptême, on l'a dit tout à l'heure, a été le symbole des apôtres. Mais au moment du développement de l'hérésie arienne, le symbole de Nicée-Constantinople va rapidement devenir le symbole baptismal des églises orientales. Et aujourd'hui, c'est encore le symbole utilisé pour les baptêmes dans les églises orientales. Et même à Rome, le symbole de Nicée-Constantinople va évincer le symbole des apôtres entre les années 500 et 900. Et donc aujourd'hui, le rituel de l'initiation chrétienne pour la préparation du baptême des adultes propose comme texte de profession de foi d'abord le symbole des apôtres, on est revenu à l'antique tradition, ou bien le symbole de Nicée-Constantinople. On verra que dans le missel, pour la messe, c'est l'inverse, c'est dans l'autre sens. Donc dans la messe, c'est aussi en réaction contre l'arianisme que le symbole de Nicée-Constantinople a été inséré, mais il est venu plus tard que dans le baptême. Et donc il est entré dans la messe au début du VIe siècle en Orient. Et donc le concile de Tolède, qui a eu lieu en 589, en prescrit l'usage pour l'Occident, mais ça va mettre du temps à se généraliser, et on le trouve dans l'église de Rome à la messe à partir du XIe siècle. Et donc actuellement encore, le missel romain, donc pour la messe, propose les deux textes, mais avec pour le coup d'abord le symbole de Nicée-Constantinople, et la rubrique précise qu'on peut utiliser, si on veut, le symbole des apôtres. Donc c'est la profession de foi que l'on fait, qui est réservée en général à la messe dominicale, qu'on peut utiliser aussi pour solenniser certaines célébrations. Et la présentation générale du missel romain nous dit, au sujet du credo, qu'il est un des éléments essentiels pour manifester et pour fortifier la participation active des fidèles. Donc c'est un moment où les fidèles ont une participation active particulièrement forte, et il est recommandé dans la présentation du missel que pour cela, les fidèles sachent le chanter en latin, pour dans les célébrations en commun, qu'on puisse tous y participer. Et la profession de foi est située de telle sorte dans la messe qu'elle fasse le lien entre les deux grandes parties de la messe. Voici ce qu'écrit la présentation du missel. Le symbole, ou profession de foi vise à ce que tout le peuple rassemblé réponde à la parole de Dieu annoncée dans les lectures de la Sainte Écriture et expliquée dans l'homélie, et, en professant la règle de foi dans une formule approuvée pour l'usage liturgique, l'Assemblée toujours se rappelle et professe les grands mystères de la foi avant que ne commence leur célébration dans l'Eucharistie. Voilà. Donc vraiment le lien, la réponse à la parole de Dieu et la profession de foi des mystères qui vont être célébrés dans l'Eucharistie. Chez les Arméniens, pour manifester cela, le credo est proclamé par le diacre après l'évangile, avec l'évangile, le texte de l'évangile levé. Voilà, et à ce moment-là, il proclame le credo. Et donc, ça peut être l'occasion aussi de rappeler ce que dit le texte de la Congrégation pour le culte divin et les sacrements, Redemptionis Sacramentum, qui précise que durant la Sainte Messe, tout comme dans les autres célébrations de la Sainte Liturgie, il n'est pas permis d'utiliser un symbole ou une profession de foi qui ne se trouve pas dans les livres liturgiques dûment approuvés. Voilà. Parce que ça s'entend souvent pour des confirmations ou des...
Voilà. Oh, Dieu qui chante.
Et qui fait chanter la vie. Bon, voilà. Donc c'est bien demandé. Et vu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le symbole des apôtres, ce qu'on va dire encore sur le symbole de Nice et Constantinople, la foi, on la reçoit, on ne l'écrit pas. Donc troisième fonction de ce symbole de Nice et Constantinople, la fonction œcuménique. Donc le symbole de Nice et Constantinople a une importante valeur œcuménique. Donc le terme œcuménique désignait l'ensemble de la terre habitée, et donc aujourd'hui il désigne l'effort qui est fait pour arriver à l'unité de tous les chrétiens. Et donc les deux conciles de Nicée et de Constantinople sont ce qu'on appelle des conciles œcuméniques, c'est-à-dire qu'on leur a reconnu dans l'histoire une valeur universelle, une portée universelle pour l'Église. Et ces deux conciles font partie, donc ce sont les deux premiers conciles œcuméniques, on peut dire, ils font partie des conciles qui sont reçus aujourd'hui encore par toutes les grandes églises de l'Orient et de l'Occident. Donc on en parlait tout à l'heure pour le symbole des apôtres, en tout cas le symbole de Nicée-Constantinople est reconnu par les catholiques, les orthodoxes et les protestants qui peuvent professer ce symbole. Et il est très important d'avoir cette base commune, qui est loin d'être négligeable, parce que quand on voit tout ce qu'il y a quand même dans ce symbole, ça doit nous rappeler ce que disait Jean-Paul II, que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Alors Benoît XVI, à ce sujet, disait en 2010, au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il disait « Dans ce symbole de Nicée-Constantinople se trouvent donc les vérités de foi que les chrétiens peuvent professer et dont ils peuvent témoigner ensemble, afin que le monde croit, manifestant avec le désir et l'engagement de surmonter les divergences existantes, la volonté de marcher vers la pleine communion, l'unité du corps du Christ. » Donc Benoît XVI le dit, il y a des divergences qui demeurent, c'est évident, et ce serait contraire à la vérité, et donc au vrai œcuménisme de les cacher ou de les ignorer. Mais dans ce mouvement vers l'unité, qui a été tant désiré par le Concile Vatican II et par les papes, eh bien le symbole de Nicée-Constantinople demeure, comme le disait le cardinal Ratzinger, un signe d'orientation pour l'unité des chrétiens divisés. Pour conclure, donc, le symbole de Nicée-Constantinople demeure un texte essentiel pour l'Église, dans ses différentes dimensions, doctrinales, liturgiques, œcuméniques. Et si ce credo a cette importance aujourd'hui pour l'Église, c'est parce qu'il relie en quelque sorte l'Église à la parole de Dieu, en lui donnant, Père Bernard a insisté là-dessus tout à l'heure, en lui donnant son interprétation authentique. Voilà ce qu'écrivait aussi Joseph Ratzinger. Les symboles de foi ne sont pas un ajout à l'Écriture, mais bien un fil conducteur qui la traverse. Un fil d'Ariane, en quelque sorte, qui permet de s'orienter dans le labyrinthe et qui révèle son tracé. Ces symboles ne sont donc pas une sorte d'explication extérieure, un ajout à ce qui est inexplicable, mais un renvoi à la figure explicite, lumineuse. Ils sont cette mise en valeur de la figure qui laisse entrevoir la clarté immanente de l'écriture. Voilà. Donc c'est le symbole est en quelque sorte la mise en relief de ce qui, dans l'écriture, peut être difficile à interpréter ou à retrouver personnellement. Alors en cette année de la foi, on pourrait prendre toute cette résolution, Père Bernard l'évoquait tout à l'heure, en citant, c'était Jean-Paul II, je crois, que le credo doit aussi être prié. Et c'est vrai que ce n'est pas un texte auquel on pense souvent que l'on prie, parce qu'on ne s'adresse pas directement à Dieu, mais c'est une prière qui exprime notre foi ou la foi de l'Église que l'on fait nôtre et qui nous rapproche de Dieu et de toute l'Église. Le catéchisme nous dit « réciter avec foi le credo, c'est entrer en communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est entrer aussi en communion avec l'Église tout entière qui nous transmet la foi et au sein de laquelle nous croyons. » Donc on peut demander que ce symbole devienne vraiment, le catéchisme cite saint Ambroise qui parlait du trésor de notre âme, notre foi qui est condensée dans ce credo. Et on peut conclure par cette belle exhortation de saint Augustin qui est citée aussi par le catéchisme et qui dit « Que ton symbole soit pour toi comme un miroir. Regarde-toi en lui pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire. » Et ensuite, réjouis-toi chaque jour en ta foi.